Merci beaucoup d'écouter l'Alpha 10-13 sur Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie de Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour.
Bonjour.
Philosophe et spécialiste des questions de société, vous venez aujourd'hui nous parler de votre dernier ouvrage intitulé « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» C'est aux éditions Odile Jacob. Dans ce livre, qui achève un cycle entamé en 2007, vous explorez les tensions qui traversent nos sociétés contemporaines pour faire de nous des adultes. Vous tentez de comprendre la crise de l'autorité, la montée des revendications identitaires, les doutes autour de la démocratie ou encore notre rapport à la politesse et aux autres normes sociales. Ces thématiques résonnent avec vos analyses précédentes, des thèses développées dans vos ouvrages antérieurs, les questions d'autorité notamment, son application dans les sociétés du passé, les sociétés modernes, la critique du peuple roi, tout cela est familier pour vos lecteurs assidus et celles et ceux qui suivent vos enseignements à la Sorbonne. Pierre-Henri Tavoyot, ma première question est la suivante, très simple, vous verrez, voulons-nous encore vivre ensemble ?
Eh bien, oui, voilà, la réponse sera brève, c'est rare pour un philosophe. Oui, je pense que, certes, les tensions, les difficultés, on les voit monter dans nos sociétés contemporaines, qui sont des sociétés d'individus, donc à certains égards, société et individu, ça va pas ensemble. Mais je pense que si on creuse un peu les choses, on voit qu'il y a des piliers de la convivialité qui restent en fait assez solides, et puis on a aussi des liens qui se reconfigurent au sein de la famille, au sein du travail d'ailleurs, et il faut pas, vous voyez, dans notre monde d'actualité frénétique, comme on dit, on entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser. Donc on est plus attiré par les mauvaises nouvelles que par les nouvelles un peu plus réjouissantes. Et il me semble qu'en regardant bien, en dépit de toutes les difficultés, en effet, il y a de la création du lien et il y a une aspiration surtout au lien.
Un des problèmes que vous pointez est celui de l'autorité. Et l'autorité n'a-t-elle pas toujours été en crise ? En 1932, le général de Gaulle écrivait déjà dans le fil de l'épée, je cite, « Notre temps est dur pour l'autorité, les mœurs la battent en brèche, les lois tendent à l'affaiblir, au foyer comme à l'atelier, dans l'État ou dans la rue, c'est l'impatience et la critique qu'elle suscite plutôt que la confiance et la subordination. » Finalement, ne peut-on pas dire que l'autorité a toujours été remise en question et qu'elle se défie elle-même depuis toujours ? Autrement dit, que la dite crise de l'autorité n'est pas un problème.
Alors, en fait, pas tout à fait, parce que Charles de Gaulle pointait effectivement ce qui était émergent dans les sociétés dites démocratiques. Mmh. Dans les sociétés traditionnelles, on avait des modèles d'autorité qui étaient bien identifiés, ils venaient soit du passé, soit de la nature, soit du divin, et en quelque sorte, l'autorité tombait du ciel. Le propre des sociétés modernes, c'est d'envisager, si je puis dire, une autorité sur ressources propres, comme on dit en comptabilité, c'est-à-dire qu'il faut trouver en soi-même les ressources pour s'augmenter, pour qu'un pouvoir vaille plus longtemps que le simple force, pour qu'un argument ait plus de valeur que sa simple valeur argumentative, hein, ce qu'on appelle les arguments d'autorité, mm-hmm. ou des pouvoirs d'autorité. Et l'autorité, c'est l'étymologie d'ailleurs, c'est augere en latin, ça veut dire augmenter, c'est ce qui augmente, ça augmente un pouvoir et ça augmente un argument. Et bien précisément, nous devons aujourd'hui nous convaincre que l'autorité, elle vient de nous, de notre besoin. Et l'autorité démocratique, c'est ça qui la rend à la fois sublime et complexe. La bonne autorité, c'est celle qui fait grandir, si je puis dire, à la fois celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet. C'est une autorité gagnant-gagnant. Mais ça, c'est difficile à montrer, parce que c'est une autorité de service. Il faut apporter des preuves. Donc vous voyez, quand on est parent, eh bien on a l'autorité parce que notre but de parent, c'est de faire grandir nos enfants. Voilà, c'est ça qui justifie l'autorité parentale. Elle tombe pas du ciel ou d'ailleurs. Et ça, c'est difficile à incarner collectivement. Individuellement, on le pense, mais collectivement, ça reste plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a effectivement cette dimension de crise d'autorité.
Et ce qui peut augmenter notre autorité, c'est le charisme. Vous l'envisagez à un moment dans le livre. Vous opposez le leader charismatique au technocrate expert. Mais le charisme n'est-il pas une force ambivalente et donc dangereuse ? Spinoza rappelle que les pires tyrans sont ceux qui savent se faire aimer. Le charisme n'est-il pas en fait un danger pour les sociétés démocratiques ?
Oui, en effet, on est très ambivalent à l'égard du charisme parce qu'à la fois on le craint. Aujourd'hui, on a vu les grands leaders des systèmes totalitaires qui étaient très charismatiques et qui ont conduit leur peuple à des catastrophes inouïes. Et en même temps, malgré tout, on exige, vous voyez, quand dans une élection, on demande à un candidat qui ne soit pas simplement un gestionnaire ou un technocrate, mais qu'il ait une vision. Raymond Barre disait, quand il présentait sa campagne électorale à la présidentielle, on me demande de faire rêver les Français, mais pour les faire rêver, encore faudrait-il que je les endormisse. Voilà, évidemment, chaque forme de charisme suppose effectivement une forme d'endormissement et d'abrutissement. Mais c'est cette ambivalence, elle est intéressante parce que malgré tout, on exige quelque chose de l'élu qui va au-delà, c'est-à-dire qu'il incarne ce collectif. Et ce collectif qui est incarné, c'est encore une fois l'idée que est-ce que cet individu va nous permettre de grandir collectivement et de faire grandir, c'est-à-dire de nous faire passer à l'âge adulte en quelque sorte. Je pense que nos démocraties aujourd'hui sont un peu installés dans un âge post-pubère, un peu ado. Vous voyez, on s'isole et puis on proteste dans une logique un peu révoltée. C'est ça, à mon avis, le cœur de la crise démocratique.
Dans ce livre, Voulons-nous encore vivre ensemble, aux éditions Odile Jacob, vous écrivez également sur la tendance à la victimisation. Je vous cite, la souffrance fait la victime et la victime aujourd'hui fait autorité pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, c'est la solidarité mondiale en cas de catastrophe. Pour le pire, c'est l'illusion que la souffrance confère mécaniquement des droits, voire des privilèges. La raison du plus souffrant n'est pas toujours la meilleure. Pensez-vous donc que nous vivons dans une société où l'individu se définit davantage par ses blessures que par ses responsabilités? Et si oui, qu'est-ce qui nous a conduit à cela?
Alors, c'est pas une lecture exclusive, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être attentif sur notre temps moderne de rester dans l'ambivalence. Vous voyez, il y a des forces de destruction, il y a des forces de construction. Idem pour ce goût de la victimisation. Vous voyez, lorsque le colonel Beltrame a été assassiné par des terroristes islamistes, on a fait une plaque dans un jardin de Paris en disant « Colonel Beltrame, victime de son héroïsme ». C'est très étrange comme formule, parce que comme si la figure du héros ne suffisait pas et qu'il fallait immédiatement ajouter celle de la victime. Quand on réfléchit à cette formule, victime de son héroïsme, elle n'a aucun sens. En vérité, c'est victime des terroristes, mais oui. Héros parce qu'il a été opposé à ces terroristes, mais victime de son héroïsme, ça ne veut rien dire. Et donc on est dans une société où effectivement il y a la souffrance, il y a le culte de l'héroïsme qui reste présent, mais fondamentalement la cause, pour répondre à votre question, c'est que nous sommes dans des sociétés d'individus. Et ces sociétés d'individus, on a beaucoup de mal à les penser. Et ma thèse que je voudrais défendre, c'est de dire qu'une société d'individus, ça peut être grandiose, à condition qu'on fasse en sorte que la société fabrique de l'individu, mais que l'individu fabrique aussi de la société. C'est-à-dire que le but de nous, quand on est fabriqué comme individu, qu'on est constitué, c'est d'arriver à faire du lien autour de nous, à être dans les logiques de solidarité, qu'on prenne soin du collectif. Et comme on est dans une logique parfois un peu du narcissisme, eh bien ce retour vers le collectif, on a tendance à l'oublier. C'est cette petite chose supplémentaire, ce petit truc en plus, comme on dit dans les films aujourd'hui, qu'il faut sur quoi il faut veiller particulièrement aujourd'hui.
Oui, vous déplorez ce que vous appelez les fiertés mal placées.
Oui, les fiertés mal placées, c'est-à-dire que à l'âge démocratique, à l'âge aristocratique, jadis, la naissance conférait une valeur à une personne. Donc effectivement, vous pouviez être fier d'être noble. Vous pouvez être fier d'être de telle famille. Aujourd'hui, non. La marge des fiertés, c'est pas la marge des fiertés d'être quelqu'un, d'être gay, d'être français, d'être portugais, ou que sais-je. Non, c'est de faire en sorte d'agir, d'être actif, c'est-à-dire de lutter contre l'homophobie, de contribuer à la grandeur de la France, de contribuer au rayonnement du Portugal. Oui, c'est l'agir qui fait la fierté. Sinon, on tombe dans une forme de suprémacisme, je suis fier de ce que je suis, ou je suis fier de ce que je souffre donc j'existe, je souffre donc j'ai de la valeur. Cette identité ne confère pas de la valeur, c'est l'action qui confère de la valeur, ce qu'on fait, le mérite notamment.
Alors il y a quelque chose de curieux également dans votre ouvrage, puisque vous critiquez l'idée que la politesse puisse être qualifiée de violence symbolique et de forme archaïque d'oppression. Pourtant, les règles de savoir-vivre, les règles de politesse sont bien le produit de normes définies par les classes dominantes, imposant une vision spécifique de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas. La politesse n'est-elle donc pas d'une certaine manière une contrainte des individus par des codes extérieurs? Et donc oui, une forme de violence symbolique?
Alors, je ne crois pas, parce que en vérité aujourd'hui, on pourrait très bien considérer que ceux qui sont les plus critiques à l'égard des manques de politesse ne sont pas forcément les classes les plus élevées, mais peut-être les classes les plus défavorisées. Mmh. Parce que il y a une logique, si on n'est pas poli entre nous, eh bien une logique de mépris, et voire de mépris social. Donc il me semble que les meilleurs défenseurs aujourd'hui de la politesse et des règles de savoir-vivre se situent pas forcément dans le haut du panier de la société, mais plutôt dans le bas, et de ce point de vue-là, on aurait tendance à l'écouter. À quoi sert la politesse? La politesse, comme son nom l'indique, ça elle sert à polir, à polir, à éviter que les comportements au quotidien soient justement des comportements violents. Donc certes, les règles de politesse sont très arbitraires, et on les voit de manière extrêmement différente selon les civilisations et selon les temps et les époques. Mais elles servent à polir, et donc cette politesse, ça sert au quotidien, en plus de la morale, en plus du droit et en plus de la politique, à faire en sorte que la vie au quotidien se passe bien dans des conditions acceptables. Et donc, quand on est parent et qu'on veut apprendre la politesse à ses enfants, c'est pas de la violence. C'est simplement de dire, voilà, tu apprends à écouter les normes, tu apprends à écouter les autres, tu apprends à obéir, mais si on se souvient que le terme d'obéir est un joli mot, en fait, ça ne veut pas dire se soumettre, obéir vient du latin ob audire, qui signifie prêter l'oreille. Je prête l'oreille au fait qu'il y a des autres auxquels je dois être attentif, je suis pas seul au monde, et je prête l'oreille au fait qu'il y a du réel, je suis pas tout puissant. Et je ne peux pas tout faire comme je veux. Et donc l'obéissance en ce sens, qui est une obéissance volontaire, c'est une obéissance qui, encore une fois, ne rétrécit pas, mais fait grandir. Eh bien, la politesse, la civilité, c'est cette obéissance à des règles qui ne rétrécit pas l'individu, mais qui tente de le faire grandir. Évidemment, ça peut y avoir un mauvais usage. Vous avez tout à fait raison, et on peut être violent, symboliquement violent là-dessus, mais la bonne politesse, ça sert à ça.
Dans la deuxième partie de votre ouvrage intitulé « Ce qui nous sépare », il y a un chapitre sur la lutte des classes. Grosso modo, vous y opposez Marx et Machiavel à Aristote et Tocqueville et vous écrivez préférer l'idée de la polarisation de la société à celle de la lutte des classes. Expliquez-nous, pourquoi considérez-vous que la lutte des classes n'existe pas ?
Ça voudrait dire, la lutte des classes, que la seule manière dont il faut envisager les rapports sociaux, c'est sous l'angle de la guerre civile. Or, dans la philosophie politique et dans les conceptions générales, depuis d'ailleurs Machiavel et Aristote, on considère qu'effectivement, il y a des tendances entre des tensions entre les riches et les pauvres. Mais que la solution pour que ces tensions disparaissent n'est pas d'éliminer les riches ou d'éliminer les pauvres, c'est de faire en sorte qu'émerge ce qu'on appelle une classe moyenne. La classe moyenne, c'est la classe qui amortit les chocs, c'est la classe dans laquelle on cherche effectivement à modérer la richesse et à éliminer la pauvreté. Et l'objectif d'une société paisible, c'est de dépasser cette guerre civile entre les riches et les pauvres pour arriver à faire émerger cette classe moyenne. J'allais dire, Aristote avait le premier envisagé cette idée, on est toujours dans cette problématique aujourd'hui.
Oui, la classe moyenne est la classe qui peut résoudre le conflit social.
C'est ça, voilà, qui est à même de résoudre le conflit social. Alors effectivement, aujourd'hui, on note le fait qu'il y a eu peut-être une démoyennisation, il y a un sentiment de déclassement qui est tout à fait réel et qu'il faut... Enfin, en tout cas, réel dans les représentations, peut-être pas réel dans l'objectivité. Les économistes et les sociologues s'affrontent sur cette question, mais c'est pas mon domaine de spécialité. Ce que je note néanmoins, c'est que cette classe moyenne reste toujours le lieu, en quelque sorte, d'amortissement de la lutte des classes.
Et les élites dans notre société, quelles responsabilités portent-elles aujourd'hui dans le défi du vivre ensemble et surtout du vivre bien ensemble ?
Je pense que les élites... Alors, la définition des élites est toujours très complexe parce qu'on peut mettre les élus, on peut mettre les riches, on peut mettre les mondialisés, etc. Il y a un sociologue et journaliste américain, anglais, qui s'appelle Goodhart, qui a écrit un livre qui s'appelle... peu importe d'ailleurs comment il s'appelle, mais qui oppose, disons, ce qu'il appelle les partout et les nulle part. Les partout sont ceux qui se sentent partout à l'aise dans le monde. Les partout sont ceux qui se sentent partout à l'aise dans le monde. Et les enracinés, les quelque part plutôt, sont ceux qui sont justement d'un endroit, d'un lieu. Et c'est pour lui le clivage prioritaire de la société d'aujourd'hui. C'est pas tellement entre élites, mais c'est ceux qui sont mondialisés et ceux qui sont enracinés.
Et donc, oui, c'est dans l'ouvrage qui s'appelle The Road to Somewhere.
Voilà, The Road to Somewhere. Et donc, cette image me paraît assez juste, et il faut être extrêmement attentif sur le fait que, par exemple, dans un schéma de désindustrialisation de la France, certaines personnes ont dit, c'est normal que nous nous désindustrialisions, les usines, les industries vont aller dans les pays du tiers-monde, et nous garderons les services. Et de ce point de vue-là, il y a eu un désastre absolu sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, de personnes qui, effectivement, n'avaient pas la possibilité de partir ailleurs, si je puis dire, pour changer de métier. Donc ce clivage-là, il est vraiment présent. Il est vraiment présent, mais là encore, la responsabilité des élites est extrêmement importante d'ignorer cette situation de local, les territoires. Et il me semble que la crise des Gilets jaunes a été, en quelque sorte, un des éléments de cette protestation de ceux qui sont quelque part par rapport à ceux qui sont partout. Mais, j'insiste sur le point, cette protestation n'a pas pris, a été violente, a été tendue, n'a jamais pris la forme d'une guerre civile.
Pierre-Henri Tavoyot, la démocratie ne porte-t-elle pas en elle les germes de sa propre destruction ? N'est-elle pas le seul régime mettant en œuvre les possibilités même de sa disparition ?
Je n'irai pas jusque-là. Je dirais qu'elle porte en elle les germes de sa déception, non pas de sa destruction. Déception, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité. Il faut être clair, on ne le sera pas totalement et on ne le sera pas jamais totalement. Donc, ça c'est clair, la démocratie est un régime déceptif. Mais on pourrait regarder les choses de manière un peu différente. C'est aussi un régime qui a un horizon extrêmement vaste. Il y a toujours quelque chose à faire en démocratie. Donc, nous devons surmonter cette déception pour continuer à avancer. C'est pour ça que je dis que la démocratie est un régime d'adultes qui exige que nous soyons adultes. L'adulte, c'est pas celui qui est tout puissant, c'est pas celui qui sait tout faire, c'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui fait son boulot. Qui fait son boulot pour faire grandir ses enfants et faire grandir son entreprise et faire grandir autour de lui. Donc nous devons être des adultes de ce point de vue-là pour grandir et faire grandir. J'ajoute que la démocratie est le grand régime parce que c'est le seul régime dans toute l'histoire de l'humanité qui dit tous les humains sont des adultes. Ou peuvent l'être. C'est le seul. Dans tous les régimes et les civilisations antérieures, il y avait quelques adultes de plein exercice, et tout autour, les autres étaient des enfants, notamment les femmes, par exemple. Là, c'est le seul régime, la seule civilisation qui dit « tout le monde est grand, tout le monde peut grandir », et puis le plus beau message, c'est « nous pouvons grandir ensemble ». Mais ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot.
Monsieur Tavoyot, ce sera ma dernière question. Êtes-vous vous-même devenu grand ? Êtes-vous sorti de l'état de minorité dont vous êtes l'unique responsable ?
Oui, je pense, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais voyez, c'est toujours la même chose sur cette question de l'âge adulte. Voilà, je fais illusion autour de moi, je suis professeur d'université, les gens doivent se dire, tiens, voilà un adulte. Moi, je sais au fond tout ce qui me manque. Je souffre, comme tous les adultes, du syndrome de l'imposteur. Et je pense que c'est peut-être la meilleure preuve et de la grandeur de l'âge adulte, c'est qu'on entre dans l'âge adulte avec le sentiment qu'on ne l'est pas tout à fait, donc il y a encore un gros boulot à faire. Et là aussi, je trouve que c'est enthousiasmant pour notre vie commune, ça donne des objectifs.
Et votre ouvrage s'appelle donc « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» C'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot.
Merci à vous.